Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. La semaine dernière, nous avons laissé David, prince de Galles, offrant à Wallis un pendentif en émeraude et brillant. Wallis, elle doit rejoindre sa tante en Italie. Sa tante qui est une dame assez à l'aise, hein, américaine. Hein. David veut partir avec elle et il dit ben, « Monsieur et Madame Rogers, qui sont donc des amis de Wallis, serviront de chaperon. » La tante est persuadée que le prince est amoureux de Wallis et alors elle le lui dit. Et la nièce lui répond que cela la rendrait heureuse si c'était vrai. On rentre du voyage, la tante aux USA et Wallis à Londres. Ernest, je vous rappelle que c'est le mari de Wallis, qui se doute de quelque chose, ne montre aucune jalousie, mais lui propose toujours son amour et son aide. À tout instant, David sonne à l'appartement des Simpson. Alors, je dis David, en fait, c'était le dernier prénom du prince de Galles, mais tout le monde l'appelait David. Cependant, comme son premier prénom est Édouard, je l'appellerai parfois Édouard. Donc, il sonne sans arrêt à la porte de l'appartement. Les Simpson commencent à en avoir un petit peu assez, tout au moins Ernest. Hein. Et puis, voilà que les frères viennent aussi, les frères de David. Il en a trois. Hein. Wallis affirme à sa tante qu'il n'est pas question qu'Ernest et elle divorcent. Seulement, voilà, nous possédons les archives du prince. Il a écrit ses mémoires quand il était en exil. Et dedans, il y a une lettre qui date de cette époque et qui ne laisse aucun doute sur les relations de David et Wallis. On peut dire que Wallis, elle va mentir un petit peu à sa tante. J'allais dire un petit peu au début, beaucoup à la fin. En tout cas, aux États-Unis, la presse s'en donne à cœur joie. En février 1935, David a invité Wallis à Kitzbühel pour les sports d'hiver. Elle est tout à fait décidée à s'y rendre, bien que son mari lui ait proposé de l'accompagner à New York. Et elle aime beaucoup les États-Unis. Hein. Apparemment, elle préfère quand même le prince. De Kitzbühel, on va à Vienne, puis à Budapest, puis à Paris. Et quand elle veut raconter son voyage à Ernest, eh bien son dernier répond que ça ne l'intéresse pas du tout. Pendant ce temps, le déferlement de la presse aux USA atteint une ampleur absolument incroyable. La tante s'en affole. En 1935, c'est le jubilé, c'est-à-dire les 25 ans de règne du roi George V. Alors, il y a un bal à Buckingham, et pendant que Wallis danse avec David, elle surprend le regard que le roi pose sur elle. Eh bien, ça n'est pas un regard gentil du tout, et ça la glace. Les choses ne s'annoncent pas faciles. Les réceptions continuent, et voilà que l'on reçoit l'envoyé d'Hitler, von Ribbentrop. Wallis lui plaît, si bien que ça va donner lieu à des ragots. Début de l'été 1935, David prolonge encore son séjour un soir chez les Simpson. Revenu chez lui, il téléphone. Alors Ernest en a partout la tête, il explose. Le lendemain, Wallis écrit une lettre à David. Il ne peut pas continuer à ne pas penser aux autres et à ce qu'il leur impose. Elle lui dit qu'un jour, elle sera seule, parce qu'elle est persuadée qu'un jour, le prince la laissera. Et qu'heureusement, Ernest sera là. Aussi, il ne faut pas le blesser perpétuellement. Le dit Ernest doit partir aux USA. Pourtant, Wallis, qui aime beaucoup son pays, ne le suit pas. David la bombarde de télégrammes que, bien sûr, tout le monde de la poste peut lire. Je viens de dire que Wallis ne suit pas son mari. Eh bien, elle part pour Cannes, rejoindre le prince. Nous connaissons tout des distractions avec David par l'intermédiaire de nombreuses lettres qu'elle écrit à sa tante. Pendant ce séjour, David a confié à Wallis que quoi ? Eh bien, que les devoirs de prince héritier lui pèsent de plus en plus. Retour, le prince va-t-il parler de Wallis à son père ? La tâche paraît insurmontable. Il continue à bombarder Wallis de petits mots dont cette dernière se garde bien de parler à sa tante. Ernest aussi rentre à Londres. Il paraît qu'il s'est bien amusé aux USA, en compagnie de Mary Kirk, la demoiselle d'honneur de Wallis à son mariage. Ceux qui aiment Wallis la mettent en garde contre les dangers qui l'attendent. Le roi George V, lui, pendant ce temps-là, s'affaiblit de jour en jour et il s'éteint le 20 janvier 1936. Alors, David est roi, sous le nom d'Édouard VIII. Il est déjà populaire auprès de la population. Un éditorialiste du Times dit de lui qu'il est courageux, pas prétentieux, de son temps et qu'il connaît bien tous les pays de l'Empire. Vous vous rappelez, il les a tous visités. David invite Wallis pour la proclamation royale. Alors, elle lui dit qu'elle se rend compte que sa vie va changer. Le prince lui répond « Rien jamais ne pourra changer les sentiments que j'éprouve pour vous. » Tout maintenant sépare David de Wallis. L'étiquette, le rituel imposé, les tâches obligées, lui n'imagine pas un seul instant qu'il puisse la perdre. Cependant, elle écrit à sa tante « C'est une tragédie qu'il ne veuille se marier que par amour. » Le nouveau roi s'est fixé comme dessein d'être un roi moderne, dans un pays moderne. Il ne juge pas nécessaire de présenter de lui une image hypocrite. Il fait annoncer que le dimanche 1er mars, jour de la Saint-David, il parlera à la radio. Évidemment, le discours n'est pas fait par lui, mais lui, il le remanie. Il veut parler avec ses propres mots. Wallis reçoit chez elle pour le roi. Les invités disent qu'elle est parfaite et sans danger. Les apparences sont trompeuses, car tout de même, il existe un monsieur Simpson. Wallis, fatigué, décide de faire un petit séjour à Paris. Eh bien, à Paris, David encore la bombarde de coups de téléphone. Édouard écrit à sa femme qu'il va rencontrer le roi et il va lui demander s'il avait l'intention de l'épouser. La rencontre a lieu et le roi Édouard VIII a répondu « Pensez-vous vraiment que je puisse être couronné sans Wallis à mes côtés ?» Ben voilà qui est clair. En attendant, il lui fait constituer une fortune qui la mettra à l'abri du besoin jusqu'à la fin de sa vie. Wallis écrit à sa tante qu'elle se sépare d'Ernest, qu'elle compte louer une maison et se prépare à vivre seule, persuadée qu'elle est que le roi va épouser quelqu'un qui conviendra à la Grande-Bretagne. Dans sa lettre, elle ajoute qu'Ernest est amoureux de Mary, qu'il passe tout son temps avec elle, qui a pris un appartement à Londres. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie d'Édouard VIII, prince roi maintenant d'Angleterre, après la mort de son père George V et de ses relations avec Wallis Simpson. Si Édouard est toujours populaire auprès du petit peuple, eh bien la situation n'est pas la même chez les membres de ce qu'on appelle la « society ». On redoute ses tendances modernistes et son amitié affichée pour Wallis Simpson. Le plus acharné, c'est Stanley Baldwin, c'est lui qui va devenir Premier ministre. Il faut lui ajouter l'archevêque de Canterbury. Quel est l'emploi du temps du roi ? Tous les jours, il s'entretient avec l'un ou l'autre de ses ministres. La situation économique du pays n'est pas florissante. Les affaires du monde vont mal, ben oui. On s'inquiète des ambitions d'Hitler. Le secrétaire d'État à la guerre entretient Édouard de la nécessité du réarmement. Je vais vous relater un incident qui montre le côté figé de la société britannique. Le conseil du duché de Cornouailles est à, on peut dire, 2 minutes à pied du palais de Buckingham. Le roi, évidemment, fait partie de ce conseil puisqu'il possède le duché de Cornouailles. Donc, il dit qu'il est inutile de prendre une voiture et il part à pied avec l'amiral Alray. Il pleut, donc les deux hommes ouvrent leur parapluie. Et à ce moment-là, passait un photographe. Vous pensez bien que le photographe, il ne rate pas l'occasion. Il prend une photo. Et le lendemain, la photo est dans tous les journaux. Le peuple lui applaudit. Mais un parlementaire, assis à côté de Wallis, d'un air figé, lui dit qu'elle devra veiller à l'avenir à la tenue dans laquelle le roi se laisse photographier. Il ajoute « La monarchie doit rester à part et au-dessus de tout ce qui est ordinaire. Nous ne pouvons pas admettre que le roi fasse ce genre de choses. » À la cour, les vieux amis du roi précédent disent d'Édouard qu'il est irrespectueux des conventions établies. Il préfère le jardinage à la chasse. Quand je dis la chasse, c'est la chasse au renard. Hein. Le golf aux régates. Il ne se rend pas à chaque saison dans un château différent. Continue à recevoir au Belvédère sa poignée d'amis. Parce que l'ambiance y est gaie et détendue, ce qui n'est pas le cas à Buckingham. Seulement, il y a Wallis. Et cette lésion du roi inquiète ce qu'on appelle l'établissement. Cette année 1936 voit la France demander l'aide de la Grande-Bretagne car Hitler a envahi la Rhénanie et est aux portes de Strasbourg. Réponse de Baldwin. L'Angleterre n'est pas en état de faire la guerre. Point. Wallis est maintenant résolu à demander le divorce. David lui fournit un spécialiste des affaires et un proche du roi observe la situation. C'est le procureur général du duché de Cornouailles qui fournit une part importante des revenus du roi. Cet homme, c'est Walter Monckton. Il est avocat, il est très loyal. Il est convaincu qu'il est impossible de conserver le secret de la situation royale, que les racontars se multiplient. Alors il décide d'en parler à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Winston Churchill. Le roi invite donc Winston à dîner avec Monckton. Chacun dit ouvertement ce qu'il pense. C'est ça qu'il apprécie, hein, le roi, et en particulier chez Wallis. Winston, que Madame Simpson ne doit pas divorcer. Édouard dit qu'il n'a pas à rougir de son sentiment pour elle et qu'il ne fera rien pour le cacher. Édouard avance ses pions. Il offre un grand dîner à York House et cette fois, on remarque que Madame Simpson y est sans son mari. On a peine à comprendre ça à notre époque. George V avait l'habitude de séjourner à Balmoral pour les vacances. Eh bien, le nouveau roi dit que ça l'ennuie et il loue un yacht qui s'appelle le Naline pour naviguer en Méditerranée et en Adriatique. La presse du monde entier en parle. Un roi a affrété un yacht à bord duquel se trouve une dame dont le mari est absent et le roi, lui, il est célibataire. La presse américaine se déchaîne. Pour l'instant, la presse britannique se tait. À chaque escale, les photographes sont là. Édouard donc retourne à Londres et Wallis à Paris parce qu'elle n'en peut plus de cette situation. Alors, elle décide d'écrire une lettre de rupture à David, ou à Édouard, comme on veut. Lui, il est au désespoir quand il reçoit cette lettre. Il empoigne le téléphone, joint Wallis et la menace carrément de se suicider. Si bien que Wallis capitule. Le roi part alors à Balmoral, où il l'a invitée. Elle arrive le 23 septembre. Ni elle ni lui ne paraissent avoir pris conscience que ces vacances écossaises représentent une faute grave à l'époque. Le divorce donc va se plaider. L'avocat de Wallis pense qu'il vaut mieux que ce soit en province pour que ce soit plus discret qu'à Londres. Donc on choisit une petite ville, la ville d'Ipswich, dans le Suffolk. Retour à Londres de Wallis. L'affaire Wallis commence à faire du bruit en Grande-Bretagne. Lord Baldwin dit au souverain que sa situation est scabreuse, qu'il faut qu'il prenne une décision. L'audience du procès en divorce est fixée au 27 octobre. Lord Beaverbrook et Stanley Watbill vont se mettre en branle. En branle chacun de son côté, parce que Lord Beaverbrook, qui possède beaucoup de journaux, je les cite, le Daily Express par exemple, le Sunday Express, l'Evening Standard, c'est une véritable puissance. Alors lui, il va prendre parti pour le roi, alors que Lord Baldwin va évidemment faire tout ce qu'il peut pour défaire la situation entre le roi et Wallis. Donc, les journaux de Lord Beaverbrook sont lus par des millions de Britanniques. Si bien que le roi le convoque et lui demande s'il est possible de se taire. Eh bien, Lord Beaverbrook accepte, si bien que la presse, pour l'instant, quand je parle de la presse, c'est la presse britannique, hein, pour l'instant, elle garde le silence. Wallis est sur place quand ça se passe et elle a le moral au plus bas. Elle demande à sa tante de venir. Baldwin, lui, réunit tout un groupe. Et si le divorce est prononcé le 27 octobre, il faut penser à une chose dans la loi anglaise, c'est qu'il y a un battement de 6 mois. Donc ce divorce ne sera effectif que le 27 avril. Et le couronnement d'Édouard VIII est prévu en mai. Donc Baldwin dit à tous les ministres, entre le 27 avril et le couronnement en mai, eh bien, le roi aura le temps d'épouser Wallis. Et ça, c'est inconcevable. La solution, c'est que le Premier ministre s'y oppose. Parce qu'à l'époque, il fait l'autorisation du Premier ministre et du gouvernement pour que le roi épouse quelqu'un. Honnêtement, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Donc, Baldwin téléphone pour avoir un rendez-vous avec le roi. Ce sera le mardi matin au Fort Belvédère. Baldwin parle pendant 1 heure du danger pour le prestige de la monarchie de cette alliance avec Wallis et il demande au roi d'insister auprès de Madame Simpson pour qu'elle ne divorce pas. C'est quand même hypocrite cette affaire-là. Hein. Le roi répond qu'il ne peut se permettre cela. Le 27 octobre arrive. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous parle de la vie du roi Édouard VIII et de sa relation avec Wallis Simpson. Donc, le divorce doit se prononcer en premier lieu le 27 octobre. Le bouche à oreille a fonctionné. Alors que Wallis se rend chez son coiffeur, il y a une véritable foule qui entoure sa voiture. Au tribunal, l'affaire dure 19 minutes. Dans 6 mois, elle sera libre. Le soir même, Édouard vient dîner chez elle. Il essaie de la consoler. Elle est persuadée qu'elle est un obstacle pour le roi. Édouard alors demande à son ami Mocton de venir le voir. Voilà qu'il lui dit « Je commence à me demander si je suis bien le roi qu'il faut. Ne suis-je pas trop indépendant ? Comme vous le savez, ma tournure d'esprit est très différente de celle de mon père. Je crois que les Britanniques préféreront quelqu'un de plus semblable à lui. Eh bien, il y a mon frère, celui qui me suit, Bertie. » Ouverture du Parlement. Il pleut. Quand le roi entre, c'est un grand silence dans la chambre des lords. Il lit le discours qu'on lui a préparé. Maintenant, le journal The Times reçoit énormément de lettres et des lettres hostiles au mariage éventuel du roi avec une personne deux fois divorcée. Et l'une des lettres est particulièrement violente. Elle se termine ainsi. Édouard VIII a démontré une incalculable irresponsabilité. Il va suggérer jusqu'à une abdication. Alors on se demande qui a écrit la lettre. Avec les méthodes que nous avons maintenant, on pourrait trouver, mais on a trouvé quand même à l'époque, c'est bien sûr Lord Stanley qui a écrit. Le propriétaire du Times fait une copie de la lettre. Il emporte un exemplaire au secrétaire du roi, un autre à Stanley Baldwin et la troisième à l'archevêque de Canterbury. Les deux, qui sont contre l'idylle. Donc, le roi la lit et ne dit rien. Il s'en va passer la flotte en revue. Il revient pour dîner avec Wallis et la tante qui est arrivée des USA. Avant le dîner, il veut voir les boîtes rouges qui attendent sur son bureau. Elles existent encore, les boîtes rouges. À chaque fois qu'il y a communication entre la reine et le premier ministre, c'est par l'intermédiaire des boîtes rouges. Dans l'une des boîtes, il trouve une enveloppe. Il l'ouvre et à l'intérieur, une lettre de son secrétaire d'État qui lui parle de la lettre envoyée au Times et il lui écrit « Une seule mesure offre encore une perspective d'échapper à cette situation » que Madame Simpson parte à l'étranger sans aucun retard. David est absolument furieux. Le dimanche 15 novembre, Édouard et Wallis sont invités chez les Kent pour le thé. En début d'après-midi, le roi va à Windsor rencontrer son ami Mocton et il lui montre la lettre. Pour Mocton, il y a du Baldwin là-dessus. Édouard dit que la première chose à faire, c'est de convoquer le Premier ministre et de lui dire que si le gouvernement et lui-même sont opposés à mon mariage avec Madame Simpson, je suis prêt à m'en aller. » Mocton accepte d'être donc le porte-parole du roi vis-à-vis de la presse. Le roi revient trouver Wallis pour aller chez les Kent. Il lui explique la situation. Il abdictera. Elle ne veut pas en entendre parler. Elle annonce alors qu'elle va quitter l'Angleterre pour éviter ça. Le roi s'insurge et affirme « Dussé-je renoncer au trône, je vous épouse. » La rencontre avec Baldwin a lieu. Édouard ne change pas d'avis. Il pense qu'il est temps de parler à sa mère. Alors il dîne avec elle et ses sœurs. Il lui fait part de la situation et il demande à lui présenter Wallis. Et même si la reine Marie aime beaucoup son fils, c'est non. Un ami du couple propose la solution d'un mariage morganatique. Parce qu'il dit « ça s'est déjà fait sur le continent ». Oui, on a l'exemple de Louis XIV, par exemple. Chez les Habsbourg, c'est pareil. Wallis serait bien l'épouse du roi, mais pas la reine. Et s'il y a des enfants, ils ne pourront pas régner. Alors, Baldwin prévenu dit que ça s'est jamais fait en Grande-Bretagne, et pour que ça existe, il faudrait une loi spéciale votée par le Parlement, et que la chose serait mal vue par les Anglais. Le ministre a écrit aux Dominions. Dominions, ce sont tous les territoires qui sont encore sous l'influence de la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, pour avoir leur avis. Et pour les Dominions, c'est non, il est hors de question que le roi épouse cette Madame Simpson. Les journaux maintenant affichent « La monarchie en danger », « Crise grave », « Crise constitutionnelle » et partout des photos de Wallis et son nom en caractère énorme. Alors tous les deux décident vraiment que Wallis doit quitter la Grande-Bretagne. Nous allons faire une dernière pause musicale. Alors, où aller? Eh bien, ses amis, qui habitent toujours Cannes, lui proposent de la recevoir. Le roi décide alors de s'adresser à la nation par radio. Nous possédons le texte de ce qu'il voulait dire. Eh bien, il en est empêché de parler par le gouvernement qui a le droit. Et je vous rappelle quand même que la grande phrase concernant la Grande-Bretagne, c'est « Le roi règne mais ne gouverne pas ». Le gouvernement, c'est le Premier ministre et les ministres. Wallis part donc avec quelqu'un de sûr qui s'appelle Brownlow. On débarque à Dieppe, on s'arrête à Rouen pour se reposer, à Évreux, à Blois, et à la sortie de Lyon, le chauffeur s'aperçoit qu'une file de voitures les suit. Ce sont des journalistes. Pendant ce temps, le roi a dit au Premier ministre qu'il lui notifierait officiellement sa décision d'abdiquer l'après-midi même. Nous sommes le 5 décembre 1936. Wallis est arrivé à Cannes, la villa des Rogers est assiégée par la presse. Encore une fois, Wallis écrit au roi une lettre de 15 pages où elle lui redit qu'elle doit sortir de sa vie afin qu'il continue de régner. Édouard en est touché, mais sa résolution est prise. Le cabinet se réunit parce que ce n'est même pas lui qui va rédiger son acte d'abdication. Ce sont les ministres. Le cabinet donc se réunit pour rédiger l'acte d'abdication. Il a prévenu son frère Bertie, et son frère est absolument atterré. Il se rend chez sa mère pour lui dire qu'il ne veut pas régner, et il est même en pleurs. Le jeudi 10 à 1h du matin, Monckton apporte au roi la rédaction de l'acte d'abdication. Édouard approuve et dit qu'il signera le lendemain. Le lendemain, c'est le même jour. Il signe à 10h du matin devant ses trois frères qui signent aussi. Ben, il faut aussi régler la question des sous. Les propriétés de la couronne, bien sûr, restent au futur roi. L'ex-roi aura droit à 25 000 livres annuels. Et son frère, quand il sera George VI, aura des discussions plutôt sordides pour réduire la pension. Ce même frère propose à David donc un titre. Lui, il se serait bien vu être son Altesse Royale, le prince Édouard. George VI propose duc de Windsor. Eh bien, finalement, Édouard accepte. Il quitte le fort, sa maison donc, il dîne avec sa mère, ses frères et sœurs. Ensuite, direction le château de Windsor. C'est de là qu'il doit prononcer son abdication. Un correspondant de la radio américaine dit, donc il la prononce, cette abdication, et ce correspondant dit « Prenez tous les grands discours de l'histoire, du théâtre, des orateurs les plus ardents, des grands hommes d'État, vous n'en trouverez pas d'aussi poignant que celui de l'homme qui a parlé aujourd'hui à l'Empire pour la dernière fois. » Édouard se dirige alors vers Portsmouth parce que c'est là qu'il doit embarquer. Il veut séjourner en Suisse, mais les Rothschild, qui possèdent un château en Autriche, lui propose. Donc, le voilà dans le château des Rothschild. Il ne doit pas voir Wallis, bien sûr, avant que le divorce effectif soit prononcé, c'est-à-dire fin avril 1937. Wallis, elle, est toujours à Cannes chez les Rogers. Tous les matins, elle reçoit des lettres, et ce sont des lettres d'injures. Les journaux disent ouvertement que jamais le roi George VI n'accordera le titre d'Altesse Royale à Madame Simpson. Édouard a des conversations téléphoniques avec son frère le roi. Ils discutent de sujets politiques, de sujets financiers. Édouard donne son avis sur tout. Et un jour, George VI dit à son frère de ne plus téléphoner. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, Monckton, qui est donc l'ami fidèle d'Édouard VIII, enfin qui n'est plus Édouard VIII, du duc de Windsor, Monckton met les points sur les i. Il dit que si Édouard comprend vite et bien, qu'il n'en va pas de même pour Bertie, dont l'esprit lent se confirme. Le 19 mars 1937, le président du tribunal des divorces conclut qu'aucune preuve n'a été portée d'une vie commune entre le duc de Windsor et Madame Simpson. C'est quand même de l'hypocrisie. Tous les deux commencent alors à parler sérieusement de leur mariage. Où aura-t-il lieu ? Un certain Charles Bedeau, par admiration pour le roi, propose son château de Candé qui se situe près de Tours. Alors bien sûr, on enquête sur ce monsieur-là. Il est parti de rien. Il a édifié une affaire considérable. Il a une résidence dans la 5e avenue. Il est l'inventeur d'une méthode d'organisation de travail. Donc, on choisit Candé. Le 9 mars, Wallis quitte Cannes pour le château. Elle y est reçue par Madame Bedeau, absolument charmante. Le 27 avril, pas de nouvelles du divorce. Enfin, le 3 mai, Wallis reçoit la nouvelle. Le divorce est définitivement acquis. Elle téléphone à Édouard, en Autriche. Le lendemain, il est à Candé. La date du mariage est fixée, ce sera le 3 juin. Les journalistes arrivent à Tours par train entier. Il y aura un mariage religieux malgré l'hostilité des évêques. Pourquoi ? Eh bien, il y a une lettre qui parvient à Candé. Un clergyman, absolument obscur, de Darlington, qui s'appelle le révérend Robert Anderson Jardine, s'offre pour bénir les époux. Alors, on prend bien sûr des renseignements sur ce révérend, et les renseignements sont très bons. Donc, il va bénir le mariage. Il va s'en mordre les doigts après, parce que l'évêque ne sera pas du tout gentil avec lui. La famille d'Édouard viendra-t-elle au mariage ? Eh bien, on a conseillé au roi George VI de ne déléguer aucun membre de la famille royale pour le représenter. Aucune personne apparentée à Édouard ne devra être présente. Alors le on devine bien sûr, c'est Baldwin. Hein. George VI se fend quand même d'une lettre pour dire à Édouard qu'il est hors de question que Wallis devienne Altesse royale. Alors, quand il lit la lettre, Édouard ne peut pas s'empêcher de dire « beau cadeau de mariage ». Parmi les journalistes, on en autorise 5, dont Maurice Schumann. Il fait très beau ce jour-là. Les Rogers, bien sûr, sont là. La tante Bessie aussi. Après la cérémonie civile, la cérémonie religieuse. Marcel Dupré tient les orgues. Et il joue du Camille Saint-Saëns. Le couple va demeurer dans un hôtel particulier que Paul-Louis Veller leur prête. Ce sera rue de la Faisanderie. Pendant la guerre, Édouard et Wallis vont en Grande-Bretagne parce qu'ils veulent servir leur pays. Tous les membres de la famille royale refusent de les rencontrer. Alors finalement, lui, il est officier de liaison, mais auprès du quartier général français. Et Wallis s'engage dans la Croix-Rouge française. Ils ne seront pas invités au mariage de la princesse Elisabeth et de Philip Mountbatten. Le duc de Windsor multiplie les tentatives pour regagner son pays et pour y vivre. Il n'obtient que des rebuffades. Il est autorisé à assister aux funérailles de son frère et de sa mère, mais écoutez bien, mais sans sa femme. 1964, le duc est opéré à cœur ouvert. Progrès chez Elisabeth II. Elle fait porter des fleurs. La même année, il est opéré des yeux à Londres. La reine lui rend visite et serre la main de Wallis qui est présente. Juin 1967, on appose une plaque à la mémoire de la reine Marie. Tous les deux sont invités et conduit au premier rang à côté de la reine. La pénitence a duré 30 ans. Édouard meurt le 27 mai 1972 d'un cancer de la gorge. Wallis va lui survivre 15 ans. Au revoir à tous.